ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Comme tous les mercredis à partir de 18h30, c'est la Pleine Lune dans vos oreilles. Avec ce soir, dans quelques instants, nos nouvelles. Et puis ensuite, Marjolaine qui vous ouvre son cœur et qui vous fait part de tous ces coups de... ces admirations, ces visites à travers les concerts, les théâtres, les films, les expositions. Dans quelques instants, c'est les nouvelles. Mais vous pouvez aussi nous téléphoner au 450 40 51 41 059 depuis la Suisse. La Pleine Lune, Radio Zone, sur 93.8 MHz, nos nouvelles. À l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars, les femmes sont descendues dans la rue partout en Suisse, à Genève, Zurich et Lausanne. Des manifestations ont dénoncé l'égalité toujours inexistante et appelé à la solidarité internationale. À Genève, plus de 400 femmes rouges de colère ont réclamé enfin l'assurance maternité et demandé l'asile pour les femmes bosniaques. Elles ont aussi dénoncé toujours la répartition inégale entre hommes et femmes sur la question du travail domestique. Lausanne, c'est une marche de solidarité d'une vingtaine de femmes, elles habillées en fuchsia, avec des grands panneaux, on pouvait lire en silence « Femme tibétaine », « Une nouvelle conseillère fédérale » ou encore « Assurance maternité, 54 ans d'attente, ça suffit ». Et puis à Zurich, 300-400 femmes ont manifesté également. Elles réclamaient toujours l'assurance maternité, mais également un permis de séjour illimité pour toutes les requérantes d'asile. En France également, des manifestations plus officielles, si l'on peut dire. Le Premier ministre Jospin a invité toutes les femmes de son gouvernement et la ministre au sport a appelé, à la jeunesse au sport, a appelé un grand rassemblement des jeunes filles. Ça s'appelait « Allez les filles ». Et c'était un rassemblement qui venait de toute la France, des filles de 12 à 30 ans, 800 jeunes femmes de tout horizon qui se sont retrouvées pour parler de leurs difficultés parce qu'elles sont des femmes ou qu'elles sont issues de quartiers défavorisés. À les entendre, la situation n'a pas beaucoup changé. Pour l'une, l'avenir s'annonce triste et borné. Elle dit, la femme, elle va naître, elle va faire le ménage, le mariage, et puis encore le ménage, et elle va mourir. Pour les autres, c'est la violence au lycée, ou la violence tout court, qui est toujours aussi forte. C'est incroyable d'avoir expliqué qu'une fille n'est pas une salope, parce qu'elle est une fille. Elles disent également leur dégoût. Je trouve qu'on voit beaucoup trop de femmes nues à la télévision. Et puis elles remettent les pendules à l'heure. Les hommes se croient supérieurs à cause de leur voix grave et de leurs muscles. Mais on a un cerveau comme eux, dit l'une d'elles. En tout cas, très peu de garçons sont venus. Un de ceux-là a osé dire « Les hommes réagissent comme ça vis-à-vis des femmes parce qu'ils ont peur. » Mais une jeune fille lui a renvoyé « Vous avez peur d'une chose, c'est qu'on vous laisse tomber, que vous n'ayez plus personne pour faire le ménage ou le repassage. » Au Qatar, à l'occasion du 8 mars, les citoyennes, les femmes sont devenues citoyennes. Pour la première fois, elles peuvent voter. Enfin, 9644 femmes, selon les chiffres officiels, ont pu accéder à des listes électorales. Elles représentent le 44% des électeurs qui sont allés s'inscrire. Un événement sans précédent dans le Petit Émirat, surtout si on le compare à l'aune des autres monarchies arabes de la région. de tous les États du Golfe. Le Qatar faisait naguère figure avec l'Arabie Saoudite voisine d'État le plus pétrifié, le plus hostile à toute idée nouvelle, en tout cas en ce qui concerne les femmes. En tout cas, on se moquera moins du Qatar désormais. Si au Koweït, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, celles du Qatar ont non seulement pu voter, mais aussi se présenter. 6 d'entre elles ont relevé le défi. Une d'entre elles, c'est Moza Al-Malki, qui est vraiment une femme extraordinaire pour le Qatar, puisqu'elle a un métier, elle est psychologue, mariée, mère de 3 enfants. Elle est la candidate la plus en vue, alors que la grande majorité des Qatariennes sortent vêtues du voile, qui ne laisse voir que les yeux. La passionnara du Qatar va à la bataille tête nue et habillée à l'occidentale. Avant, elle avait été parmi les rares femmes qui osaient conduire sans permis, répliquant ainsi à l'interdiction qui leur était faite de le passer. En tout cas, le scrutin a eu lieu, les femmes ont voté, mais aucune n'a été élue. En France, le fait de travailler n'a aucun rapport avec la natalité, bien au contraire. On doit pouvoir réconcilier natalité et les femmes et l'économie. C'est ce que vient c'est cette question que vient de répondre Béatrice Magnoni d'Intignano, qui a donc fait un rapport qu'elle a donné à Jospin. Aujourd'hui, une politique nataliste est une politique féministe qui articule famille et activité professionnelle. En fait, ce qui distingue les femmes qui font des enfants ou pas, ce n'est pas l'opposition active-inactive, mais la carrière et le revenu. Un postulat en opposition avec l'idéologie sous-jacente de la politique familiale française pour qui le travail des femmes demeure un obstacle à la natalité. C'est faux. Au contraire, seuls les pays occidentaux qui permettent aux femmes de concilier leur vie active et leur vie familiale ont encore assez d'enfants pour équilibrer leur structure démographique. C'est le cas de la Suède, par exemple. En Jordanie, une femme s'élève contre les crimes d'honneur. Les crimes d'honneur, c'est l'assassinat de femmes pour des questions relevant à l'honneur familial. C'est le cas, par exemple, de Faïma, une jeune femme jordanienne dont le mari était parti à l'étranger. Lorsque celui-ci revient, il vit que sa femme avait le ventre gonflé. Il pensait qu'elle l'avait trompée, qu'elle était enceinte, aveuglée par la colère. Ahmed, se sentant déshonoré, tua sa femme sans lui demander aucune explication à coups de couteau. Quelques heures plus tard, le rapport d'autopsie révéla que Fatima n'était pas enceinte mais souffrait d'une maladie. Ahmed, lui, s'en tira avec quelques mois de prison. C'est l'avocate jordanienne Asma Kader qui raconte ces histoires. Elle signale que dans 80% des cas de crimes d'honneur, les autopsies révèlent que la jeune fille était vierge et donc absolument... Bon, même si on peut considérer que le fait de perdre sa virginité n'est pas un délit, en tout cas, même aux yeux de leur mari, père ou frère, l'honneur était sauf. Asma Kader est spécialiste de ce meurtre que commet un homme sur un membre féminin de sa famille s'il estime que son honneur a été bafoué. Elle était de passage en Suisse et elle a expliqué la lutte qu'elle mène contre cette coutume inhumaine, et cela depuis 1980. Elle remarque entre autres que si, bien entendu, ces crimes font partie de la tradition, ils sont couverts par la loi, puisque le code pénal jordanien prévoit que celui qui découvre sa femme ou l'une de ses parentes commettant un adultère et qui tue ou blesse soit l'un, soit les deux protagonistes est exempté de prison. Dans le cas où un crime a été commis sous prétexte d'atteinte à l'honneur de la famille, le code prévoit la possibilité d'adoucir la sentence. Les peines de prison ne dépassent jamais 2 ans. Cet article donne aux hommes un plein contrôle sur la vie des femmes. Selon les statistiques officielles, entre 25 et 30 femmes perdent chaque année la vie en Jordanie à cause de ces crimes. Mais il y en a sûrement beaucoup plus parce que certains crimes sont camouflés en suicide. Actuellement, 55 femmes sont en prison pour être protégées. La police les gardent de cette façon, de peur qu'elles soient tuées. Des jeunes femmes passent ainsi plus de temps en prison que les assassins eux-mêmes. Les crimes font partie d'un système patriarcal. On les trouve en Jordanie, mais aussi au Brésil, au Pakistan, en Turquie, en Égypte, au Liban, en Palestine, dans d'autres pays, bien sûr, en Europe, bien que dans ce cas-là, ils soient punis par la loi. Ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu, en Jordanie et dans de nombreux d'autres pays. Asma Kader explique aussi qu'elle s'est sentie concernée par ce problème, par un cas qui lui est arrivé, une jeune fille de 15 ans, enceinte, que son père a tuée, avant qu'on découvre qu'en fait elle avait été violée par ce même père et qu'elle est enceinte de ses œuvres. En Italie, Emma Bonino brigue la présidence italienne. La commissaire européenne italienne a annoncé sa candidature à la présidentielle de mai dans son pays. Militante du parti radical, elle rompt avec une tradition qui veut que personne ne se porte candidat à ce poste où l'on est élu après des longs conciliabules entre partis politiques. Des personnalités des arts et du spectacle font campagne en faveur de cette femme féministe, figure de la lutte pour l'avortement, les droits des homosexuels, l'abolition de la peine de mort ou l'égalité des rapports Nord-Sud. Saïda Abab est la première conductrice de train en Afrique. Elle est âgée de 34 ans, c'est la fille d'un cheminot et fidèle à la tradition, elle a donc pris le wagon. Elle est entrée le 25 janvier dernier à l'Office national des chemins de fer marocain, non comme guichetière, comme les autres femmes, mais comme conductrice de locomotive. À ce titre, elle est la première au Maroc et dans tout le continent africain. En Allemagne, l'avortement est au centre d'un débat entre l'Église catholique et le pape. Le pape a demandé au centre catholique, aux évêques allemands, de fixer, de fermer les centres de consultation qui, en fait, délivraient des certificats pour pouvoir avorter. En janvier 1998, Jean-Paul II exigeait des évêques allemands d'empêcher dans ces centres de délivrance de certificats de consultation obligatoires pour avorter. La décision du Vatican générait l'inquiétude des politiques et des organisations de femmes. Au terme d'un vif débat interne suscité par la missive papale qui a donc exigé la fermeture, les évêques avaient accepté de renoncer au certificat sous leur forme actuelle, mais ils prévoient toutefois de maintenir la présence catholique dans des centres, alléguant que l'on serait ainsi mieux à même de sauver les femmes, en tout cas. Au Japon, si les hommes peuvent avoir accès au Viagra, puisque le Japon s'est empressé d'autoriser ce médicament, si l'on peut appeler ça un médicament, pour résoudre les problèmes d'érection. En tout cas, la pilule pour la pilule contraceptive, elle reste toujours interdite. Les femmes ne sont donc toujours pas maîtresses de leur sexualité. Le seul moyen de contraception autorisé reste le préservatif et l'avortement. Bon marché, d'accès facile, c'est aussi une industrie très profitable pour les obstétriciens japonais. Ils n'entendent pas se priver d'une source de revenus aussi confortable qui échappe la plupart du temps à l'impôt. Le gouvernement a si bien lavé le cerveau des Japonais ces 20 dernières années que la plupart d'entre elles ne sont pas favorables à la pilule. Il n'est pas rare qu'elles subissent 3 ou 4 avortements durant leur vie. Au Danemark, les couples homosexuels pourront avoir des enfants. Le Danemark, qui fut le premier pays en Europe à instaurer des contrats de vie commune entre partenaires homosexuels, envisage d'accorder aux hommes et aux femmes qui souscrivent à un tel accord le droit d'adopter les enfants de leurs concubins. Aux États-Unis, si les est agréable d'être une femme riche, il ne fait pas bon d'être tolarde. Une étude réalisée sur 40 prisons américaines qui détiennent des femmes révèle que 40% des gardiens sont des hommes, ce qui est contraire aux conventions internationales. Une femme, Robin Lucas, en a fait la pénible expérience dans une prison de Californie. Déclarant avoir été violée et transformée en esclave sexuelle par ses gardiens qui vendaient l'accès à sa cellule à des détenus, cette femme avait poursuivi les autorités fédérales en justice en 1996. Elle n'a jamais pu obtenir que son cas aboutisse devant un tribunal. Elle reste toujours en attente. Et une autre femme milite également pour que les conditions de vie des prisonnières s'améliorent. C'est Warnice Robinson qui milite à Chicago pour améliorer les conditions de détention des femmes. Elle sait de quoi elle parle puisqu'elle a passé plusieurs années en prison. Effectivement, Warnice Robinson, depuis l'âge de 15 ans, était une kleptomane, si l'on peut dire. En tout cas, elle écumait les grands magasins et volait des habits. Elle a sa conscientisation est venue de son expérience traumatisante lorsqu'elle a accouché quasi menottée de sa petite dernière, née il y a 5 ans alors qu'elle était détenue. Elle a été invitée par le groupe Femmes d'Amnesty International à l'occasion de la Journée internationale de la femme et de la campagne que mène Amnesty contre les violations des droits de l'homme aux États-Unis. Warnice a témoigné de ce qu'elle a vécu et de l'action qu'elle mène à Chicago. Elle raconte entre autres que quand elle a dû accoucher, elle a été emmenée à l'hôpital pieds et mains menottés, qu'on m'a enchaînée à mon lit et durant tout le travail d'accouchement sous l'œil d'un garde posté dans ma chambre, je ne pouvais pas me tourner. Elle a donc créé le CLAIM, Chicago Legal Aid to Incarcerated Women, grâce au travail de CLAIM. Menottes et chaînes lors des accouchements ont déjà été en partie bannies des prisons de l'Illinois. Une loi interdisant leur usage devrait prochainement être adoptée par le Congrès de cet État. En Suisse, un professeur dépose plainte contre des féministes à Lausanne pour avoir fait une campagne contre le harcèlement sexuel à l'Université de Lausanne. Début 99, plusieurs membres du groupe féministe Bad Girls Go Everywhere, actifs à l'Université de Lausanne, font l'objet d'une plainte pénale déposée par un professeur de cette université qui les accuse de diffamation, calomnie, injure et tentative de contrainte en marge d'une plainte pour harcèlement sexuel dont il fait lui-même objet. On rappelle l'histoire. En février, le groupe Bad Girls Go Everywhere s'est créé en 1995 à l'université à Lausanne dans le but est de lutter contre toute forme de sexisme à l'université et donc entre autres contre le harcèlement sexuel. Elles ont organisé une campagne avec brochures, conférences, etc. Et entre-temps, une plainte pour harcèlement sexuel contre un professeur a été déposée par une assistante. C'est dans ce contexte que cette plainte a créé énormément de confusion à l'université. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Pourquoi? Est-ce que? Comment? Et la presse locale s'y est également donné son avis. C'est dans ce contexte que le groupe Bad Girls Go Everywhere a diffusé un tract d'informations sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel. Le professeur accusé de harcèlement dépose plainte disciplinaire au sein de l'université contre le groupe et certains de ses membres dont les agissements sont qualifiés de diffamatoires et calomnieuses. Mais l'enquête disciplinaire a lieu et le président du conseil de discipline de l'université décide finalement de ne pas ouvrir d'enquête, faute d'éléments. Les accusations du professeur contre les membres du Bad Girls n'en restent pas là. Elles se poursuivent par le dépôt d'une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte. Les membres du groupe Bad Girls sont dès lors auditionnés par la police en tant que prévenus, puis par le juge d'instruction qui les inculpe. Ces personnes sont toujours dans l'attente d'un éventuel procès. Leur inculpation est injuste et arbitraire. Aucune des pièces, un tract co-signé par d'autres associations, une lettre non publique, etc. du dossier ne justifie l'inculpation des membres du Bad Girls. Et entre autres, il faut souligner que tous les autres groupes et associations qui ont signé le tract ne sont pas poursuivis. C'est pourquoi un comité de soutien s'est formé qui invite tous les groupes de femmes, les associations et les individus à soutenir les Bad Girls Go Everywhere. Je vous donne l'adresse collectif Femmes en Grève, case postale 275 1000 Lausanne 17. Je répète, collectif Femmes en Grève, case postale 275 1000 Lausanne 17. La gendarmerie genevoise de nouveau sur la sellette. Cette fois-ci, c'est un violent, un gendarme qui aurait battu sa ex-femme. La police ouvre une enquête, mais le procureur Bertossa, lui, classe l'affaire. Anna s'est retrouvée à l'hôpital à trois reprises. Au début, elle ne veut pas déposer plainte contre son mari, qui est très malade, mais après ce qu'elle appelle un sérieux passage à tabac, suite au conseil aussi de deux gendarmes, finalement, elle va déposer plainte pour violence et vol, puisqu'en plus, il lui a volé sa voiture. Les deux plaintes sont classées par le procureur général Bernard Bertossa, mais elle ne tient pas à en rester là et elle a décidé de recourir contre cette... ce classement. Pendant ce temps, quand même, la gendarmerie a décidé d'ouvrir une enquête. Il semblerait que le mari violent n'en ait pas son premier coup et qu'il aurait déjà battu ses deux premières femmes. En tout cas, Bernard Bertossa vient de réitérer sa décision de classement pour le magistrat. Je cite, « Le comportement du policier peut s'expliquer, sinon se justifier par un état de santé gravement perturbé. » On pourrait penser que ce type d'attention serait donnée lors du procès. Ça pourrait être des circonstances atténuantes, mais en tout cas, ça n'explique pas le classement d'une plainte. Encore, on verra donc les gendarmes violeurs et des gendarmes batteurs recevoir des femmes venues porter plainte. C'est extraordinaire. En tout cas, pour le président de l'Union du personnel du corps de police, Pierre-Alain Laurent, il estime que cette affaire ressort du domaine privé, n'a donc aucun intérêt public. Là aussi, on voit qu'est-ce qui attend les femmes qui viennent déposer plainte pour coups et blessures de la part de leur conjoint. Les études de genre, ce sont ces études, ces cycles de cours donnés à l'Université de Genève, à l'Université de Lausanne pour analyser, étudier, rechercher sur la problématique homme-femme. Elles viennent de nommer à la commission du diplôme une féministe tout craint. C'est un gag, c'est Suzette Sandeau. Suzette Sandeau, qu'on connaît bien, puisque dès qu'il s'agit de femmes, elle a des positions absolument les plus antiféministes qu'il s'agisse, à tel point qu'une série d'associations comme Femmes Féminines Recherche ont décidé d'écrire une lettre. C'est la mauvaise candidate au mauvais endroit. La nomination de Suzette Sandeau à la commission scientifique liée au diplôme de spécialisation interfacultaire études de genre est vraiment une grosse bourde. Pourquoi réagir ? Elle relève que Suzette Sandeau s'est toujours montrée hostile à toute innovation visant à améliorer la condition de la femme. On peut la voir entre autres dans le comité référendum contre l'assurance maternité. Devant cette querelle, Suzette Sandeau a décrété qu'elle n'était là que pour garantir la qualité scientifique des travaux et que si elle avait su que ses études de genre étaient un repère pour les lobbies féministes appuyant pour l'égalité, elle n'y aurait jamais participé. Puis un dernier petit cochon, pour terminer, un cochon, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas donné, le chapeau du cochon sexiste. Cette fois-ci, c'est aux journaux 24 heures et à la Tribune de Genève qui ont donné une grande place aux femmes à l'occasion du 8 mars. Et pour illustrer un article qui explique l'histoire du 8 mars, une photo d'une femme très dénudée montrant la mode. Alors bien sûr, un petit clin d'œil est donné. On pense que ça peut être le journal met en avant la contradiction, mais il en profite quand même pour montrer des guiboles à poil, comme quoi les femmes à moitié nues, ça fait toujours vendre. Et puis le 8 mars et les femmes, c'est une mode, comme toujours. On s'en débarrassera difficilement de cette étiquette. Je Quelques annonces pour terminer. Une annonce, le squat dans la rue des locaux commerciaux de la rue Guillaume Tell annonce l'ouverture d'une crèche. C'est une structure qui est en fait gérée par les parents, mais il y a quand même une permanence qui est assurée mardi après-midi, mercredi et jeudi toute la journée de 9h à 18h, repas de midi compris. Donc si vous avez un enfant, si vous avez envie d'aller le garder dans une structure telle que celle qui est offerte par le squat de la rue Guillaume Tell, eh bien vous voilà prévenu. Alors la rue Guillaume Tell, c'est donc dans le quartier, c'est vers la rue du Cendrier à Genève. Et puis d'autres rendez-vous. L'université ouvrière organise une rencontre sur le thème « Les conséquences du chômage sur la santé » avec une femme médecin, Juliette Buffa. C'est le jeudi 11 mars de 10h à 12h à l'UEG, donc c'est à la rue du Cercle ou à la place des Grottes. C'est donc dans le quartier des Grottes, juste derrière la gare. Autre conférence, celle-ci donnée par l'atelier de recherche féminin-masculin de la faculté des lettres. C'est une discussion sur le thème de la Grèce au féminin. On parlera d'une fameuse pythagoricienne, c'est Théano. Discussion sera animée par Claudia Montepaone de l'Université de Naples. Ces mercredis aura lieu le 24 mars à 20h. Ça se passe à l'Université des Bastions, à l'aile Jura, salle A109. Toute personne intéressée y est invitée. Et puis, le Congrès suisse des historiennes fait un appel à communication. Son congrès aura lieu en février de l'an 2000 à Fribourg, sur le thème « Genre et savoir ». Donc, si vous êtes historienne, si vous avez fait une recherche sur le thème de la transmission du savoir, de sa contextualisation et de sa consécration ou de l'exclusion des femmes du savoir, eh bien, vous pouvez participer à envoyer vos communications à l'adresse suivante, au fax suivant, 026 397 16. Je répète, 026 397 16, un congrès qui se tiendra donc à Fribourg. Et puis, j'aimerais encore vous signaler que le Centre Femmes Nathalie Bernet a déménagé, vous le savez peut-être, je vous le rappelle. Il est maintenant au 19 chemin Bloch, 1219 Genève, c'est donc tout à fait de l'autre côté, c'est plutôt vers le Grand Saconnet. Mais il y a toujours la bibliothèque, l'espace internet, l'espace de jeu, l'espace libre, un bureau d'accueil et voilà. Et puis, vous rappelez aussi, si vous voyagez, que le 21e Festival international de films de femmes s'ouvre vendredi à Créteil jusqu'au 21 mars avec des longs métrages documentaires, un autoportrait de Jeanne Moreau, des films en compétition qui viennent de partout dans le monde. Un regard plus direct sur les Antipodes, les films d'Australiens et des Nouvelles-Zélandes, avec 35 réalisatrices, dont des réalisatrices aborigènes. Et puis, le Printemps du Québec, avec toujours le concours officiel, et puis aussi les graines de cinéphage. C'est les jeunes qui pourront également choisir des films et un regard plus particulier sur l'enfance. Donc c'est à Créteil, du 12 au 21 mars. Et puis, une pièce de théâtre, avant que Marjolaine vous parle de ses coups de cœur, c'est le Théâtre au Champ, qui est un théâtre qui travaille avec des adolescents, qui parle de Virginie, où si les silences n'étaient pas d'or. C'est à Lola du cycle Foron, à partir du 16 mars. C'est une problématique sur la violence contre les enfants. Voilà. Les nouvelles, c'est terminé. Je vous laisse dans quelques instants avec Marjolaine qui vous ouvre son cœur.